Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. La semaine dernière, nous avons vu ce que Dieu réserve à ceux qui acceptent de se soumettre à lui, de lui obéir et de vivre en conformité avec ses lois et ses commandements. Sachez et comprenez que tout être humain qui bénéficie de la puissance du Saint-Esprit que Dieu ne donne qu'à celui qui lui obéit, cet être pourra rejoindre Jésus, le Fils premier-né dans la famille divine. Ce fut, dès le commencement, le grand plan de Dieu qui, par amour, veut partager sa vie éternelle avec ce qu'elle comporte de joie et de majesté. Lisons ce que Paul écrit au sujet du Christ. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Paul cite ici le psaume 8. Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. En écrivant ce passage, Paul explique que la gloire rendue au Fils de l'homme, au Christ, lors de sa résurrection, reviendra aussi à tous ceux qui se seront qualifiés pour le royaume, pour devenir membres de la famille divine. La Bible nous dit que l'homme a été créé pour un peu de temps au-dessous des anges. Toutefois, Dieu a prévu de placer toute chose, toute la création, sous sa domination. Déjà, toutes choses sont soumises à Jésus-Christ. Il le confirme à ses disciples après sa résurrection. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans ce verset, le mot pouvoir est traduit du grec exousia, qui a le sens d'autorité, de prise de contrôle. Dieu a créé l'humanité dans le but ultime de partager son règne, sa domination sur toute chose avec elle. En effet, Jésus ne sera pas le seul à avoir cette prérogative. Paul nous révèle les intentions divines à ce sujet. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et il ajoute, « Si nous sommes enfants, enfants engendrés, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Revenons à ce que Paul écrit dans son Épître aux Hébreux. « Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, il s'agit ici du Père, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, élevât à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsque le Christ était sur terre, il prêcha souvent le véritable évangile, qui n'est pas celui de sa personne, mais bien le message qu'il est venu apporter, la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il révéla le Père, et n'hésita pas à avouer qu'il ne pouvait rien faire de lui-même. Il dépendait du Père pour le guider, l'aider, le conduire. Ces déclarations sont sans équivoque. Le Père est plus grand que moi. Faisant ainsi remarquer que, tout comme certains hommes ont de plus grandes responsabilités, une plus grande autorité que d'autres, il en est de même pour le Père, le Très-Haut vis-à-vis de son Fils. Le Christ, l'Éternel de l'Ancien Testament, est le second en ce qui concerne ses responsabilités. Il œuvre en acceptant l'autorité et la supériorité du Père. Il n'hésite pas à nous le faire comprendre, en nous faisant remarquer qu'il vit en parfaite harmonie avec le Père. Ces deux êtres, le Très-Haut et l'Éternel, ont opéré en parfaite harmonie pour la création de ce qui existe, aussi bien les choses visibles que les invisibles. Après cela, c'est la parole, le Christ qui a parlé, qui a ordonné, et les choses se sont faites comme cela était commandé. Plus tard, il bâtit son Église, une seule Église qui enseigne toute la vérité et non diverses Églises divisées dans leur enseignement. Puisqu'il a promis qu'il resterait avec son Église jusqu'à la fin du monde, nous pouvons avoir la certitude qu'il ne l'abandonnera pas. Il devint notre Sauveur, après une vie parfaite, ayant observé les lois et les commandements de son Père, selon la lettre et selon l'Esprit, nous laissant ainsi un exemple à suivre. C'est encore lui qui a ôté la séparation qui existait entre Dieu et les hommes par suite des péchés de chacun. Le Père engendre. Il amène à la nouvelle naissance tous ceux qui acceptent de faire sa volonté et qui persévèrent dans cette voie jusqu'à la fin de leur vie, après avoir eu connaissance de la vérité. Chacun des enfants qu'il engendre a plus de valeur à ses yeux que toute la création qui nous entoure. Sous l'inspiration divine, l'apôtre Jean écrit au sujet des véritables disciples du Christ : Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas simplement d'un titre. Et nous le sommes, autrement dit, nous le sommes vraiment. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Le monde ne reconnaît pas le véritable chrétien, il ne reconnaît pas le véritable sauveur, il refuse de croire ce qu'il affirme, le prenant ainsi pour un menteur. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais des enfants qui ne sont encore qu'engendrés, non encore nés dans la grande famille divine, dans le royaume. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous ne sommes pas encore révélés comme tels, ce n'est pas encore démontré clairement aux yeux de tous. Pourquoi ? Parce que le temps fixé pour cela n'est pas encore arrivé. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, et ce le sera lors de la seconde venue du Christ, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Pour le moment, personne ne peut voir Dieu et survivre. Cependant, lorsque le moment de la résurrection sera venu, nous le verrons dans toute sa gloire. Dans le chapitre de la résurrection, l'apôtre Paul écrit « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. » Le terrestre, dans ce passage, se réfère à Adam de manière spécifique et à l'homme de manière générale, alors que le céleste se rapporte au Christ de manière spécifique et à la famille divine de manière générale. Au cours de cette vie, nous portons l'image du terrestre, l'image de nos parents, de notre famille humaine. Plus tard, si nous acceptons de nous soumettre à Dieu, jusqu'au bout et en toutes choses, nous porterons l'image de nos parents spirituels, nous leur serons semblables. Jésus mit son Église en garde contre ceux qui se disent chrétiens, mais qui n'en font pas partie. Voici. « Je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. » Les juifs observent les lois, mais ici ceux qui prétendent faire la volonté de Dieu ne les observent pas. Ils les rejettent, affirmant bien à tort qu'elles sont abolies, et Jésus ajoute « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Lorsque le véritable chrétien sera ressuscité dans le royaume de Dieu, lorsqu'il sera devenu membre de cette famille toute puissante, ceux qui se trouveront sous le gouvernement de Dieu et qui seront encore momentanément physiques, viendront se prosterner aux pieds de ceux qui, aujourd'hui, sont les véritables serviteurs humains du Dieu vivant. À ce sujet, la Bible spécifie bien que l'homme ne doit pas se prosterner devant un être humain, même pas devant les anges, ce geste est réservé pour les deux personnes de la famille divine. Dans sa révélation, l'apôtre Jean écrit « Celui qui vaincra héritera ces choses, je serai son Dieu et il sera mon fils ». Dans son épître aux Romains, Paul ajoute « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Rappelez-vous que Dieu ne donne son Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent, à ceux qui vivent dans l'observance des lois et des commandements, et ceci est confirmé dans Actes 5, verset 32. « Et si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts est le Père, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » Certaines personnes, ne voulant pas admettre ce que Dieu révèle dans sa parole sur la destinée de l'homme, s'appuient sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Ils affirment ceci, puisque Satan dit à Ève, « Vous serez comme des dieux », et que Satan est un menteur, cette affirmation est donc fausse. Mais ce raisonnement logique à première vue est trop simpliste. Il est vrai que Satan est un menteur, mais croire que toutes ces affirmations ne sont que mensonges est une supposition fausse et dangereuse. Satan affirme beaucoup de choses qui sont exactes. Les faits qu'il présente sont bien souvent corrects, mais ce qui est diabolique en lui, ce sont ses buts, ses intentions, ses motivations qui le poussent à mélanger quelques mensonges pernicieux à la vérité. Dans ce passage, Satan dit aussi « Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront ». Et cette affirmation est exacte. Adam et Ève mangèrent du fruit défendu, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. C'est ce que Satan avait prédit. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ce n'est pas pour rien que l'on appelle Satan le malin. Si toutes ses affirmations étaient fausses, s'il ne racontait que des mensonges, personne ne le croirait. Il suffirait de prendre le contre-pied de ce qu'il affirme pour déterminer la vérité. Voilà pourquoi, dans son désir de détruire un maximum d'êtres humains, il mélange des affirmations exactes auxquelles il ajoute une légère perversion, un rien de mensonge, juste assez pour tromper celui qui l'écoute et l'envoyer vers la mort éternelle. Dans son affirmation à Ève, Satan avait ajouté un petit mensonge aux conséquences gigantesques. « Vous ne mourrez point ». Adam et Ève voulaient devenir des dieux, mais en empruntant le chemin de la facilité, le chemin large et spacieux et non pas le chemin étroit.